France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Ah, qu'ils sont pilleurs, ces Romains. Quelle place pour le pillage dans le monde romain, et particulièrement sous la République. Car s'emparer par la force des richesses et des biens du vécu est un acte qui rapporte beaucoup d'argent pour financer la guerre, bien sûr, mais aussi un acte symbolique d'humiliation, de négation. Pillage à Rome, le butin en triomphe.
Qu'est-ce que c'est là-bas? Une louve?
Ces jumeaux avaient été abandonnés, livrés à leur sort. La louve les a trouvés et les a nourris de ses mamelles. Un sang animal coule dans leurs veines. Je sais le chaos qu'ils ont semé. Cette cité infecte tout ce qu'elle touche. Cette ville est gangrénée.
Cette armée est donc consacrée à la victoire d'abord, mais elle est aussi consacrée au pillage des provinces.
La pompe triomphale fut répartie sur 3 journées. La première suffit à peine à voir défiler les statues, les tableaux, les colosses pris à l'ennemi, que transportaient 250 chars.
Le cours de l'histoire.
On les voit en procession, on les voit transporter à la fois les trompettes du temple et également, bien en évidence et au centre, le chandelier du temple.
Michel Tarpin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire de l'art à l'université Grenoble-Alpes. Peut-on dire que le pillage est inhérent à la pratique de la guerre dès la naissance de Rome? Nous avons cette évocation ici de cette Rome antique lointaine.
Alors, si on suit Tite-Live, oui. Mais dans les versions les plus anciennes chez lui, le pillage, Rome ne pratique qu'une guerre juste, comme tant d'autres de nos jours, c'est-à-dire que c'est une guerre qui est toujours légitimée par l'agression extérieure. C'est en fait ce que nous avons transcrit sous l'appellation de terrorisme. C'est-à-dire le prétexte à attaquer quelqu'un d'autre pour le détruire. Donc officiellement, au départ, le pillage, ça consiste à aller récupérer ce que les autres ont pris, à une époque où l'ennemi se trouve entre 5 et 10 kilomètres de chez soi. Donc ça se fait dans la journée, l'aller-retour et la guerre. Et on le ramène, on rend aux propriétaires ce qui leur a été pris. Et si on peut faire une petite marge au passage, ben ça paye ceux qui sont allés castagner. Voilà. Ça, c'est la version initiale telle qu'elle est présentée et qui permet de justifier dès l'origine la guerre de pillage pour Rome. Très vite, l'agression prend des prétextes beaucoup plus légers.
Oui, parce qu'on peut rappeler cette date légendaire pour la fondation de Rome, 753 avant Jésus-Christ, et nous sommes sur un petit village, nous ne sommes pas encore dans la ville. Très vite, Rome devient...
Alors, on ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien.
C'est quelque chose qui est discuté, parce que le discours actuel, en tout cas du côté italien, c'est que la présence d'énormément de découvertes ponctuelles sous la Rome actuelle, qui est une ville immense, et une commune énorme, a amené certains à penser que c'était très tôt une très grande ville. La question étant, est-ce que c'est une très grande ville ou est-ce que les distances étant ce qu'elles sont, c'est pas simplement qu'on a trouvé des petites agglomérations, parce que ce que je vous disais, j'ai fait un peu le décompte dans les sources Tite-Live ou Denis d'Halicarnas. On compte dans le Latium Vetus, c'est-à-dire uniquement ce fond de cuvette en fait qui correspond à la plaine romaine, à en croire les auteurs antiques, il y aurait au moins 70 villes. Ce qui est énorme.
C'est gigantesque.
Sans même aller jusqu'à Praeneste ou Tivoli qui sont déjà sur les collines. Donc en fait, c'est un peu confus et c'est difficile de savoir si c'est un tas de petites agglomérations, des quartiers qui sont regroupés. Donc là, c'est compliqué, effectivement, de savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, on fait des guerres avec des voisins qui sont vraiment des voisins de palier, pratiquement.
Et nous avons un monde marqué aussi par la paysannerie. Nous avons des paysans ici qui vont combattre. De quoi est constituée cette armée?
Alors, ça, c'est tout le problème de l'identité romaine. Un des textes que vous lisiez au début évoque l'idée du sang de la louve qui les rend agressifs. Bon, je pense que les naturalistes n'aimeraient pas trop cette image du loup, quand même, qui se contente de se nourrir, lui, tout simplement. Il se trouve que la tradition, dit quand même, et Tite-Live l'explique bien, c'est que ce sont quand même des bergers brigands qui se sont réfugiés avec des exilés et d'autres brigands à un endroit qui est très malsain, en fait. La cuvette de Rome est une cuvette marécageuse. Cicéron dit qu'il y a 2 ou 3 temples dédiés à la déesse fièvre à Rome, c'est dire. Et les aristocrates romains, encore de nos jours d'ailleurs, quittent la ville dès qu'il fait trop chaud. Donc voilà, je crois que c'est Horace qui dit que l'automne à Rome ouvre les testaments.
Ah oui, à cause du climat. Ah oui, le climat est très très mauvais.
Le climat est très mauvais, la terre n'est pas forcément très rentable. Donc par rapport aux grands éleveurs des collines, du piémont de la montagne derrière, justement du côté de Préneste, au début Rome ne dispose pas non plus d'accès à la mer, donc il faut le conquérir. Donc ce sont des gens pas très riches, sur une terre qui n'est pas extraordinaire, où il n'y a pas de ressources minérales utilisables, même la pierre n'est pas très bonne en fait. On comprend assez bien qu'ils aient très tôt eu l'idée d'aller prendre chez le voisin ce qui leur manquait.
Petit tour à Rome.
Le site où la ville fut fondée est l'un de ceux qui commandent la principale des voies reliant le pays étrusque aux colonies grecques. La traversée de la plaine inondable du Tibre, rendue plus facile en ce lieu par un resserrement de la vallée, est dominée sur la rive gauche par 2 petits plateaux à bords abrupts, le Capitole et le Palatin, semblables à 2 forteresses naturelles. La possibilité qu'offrait cette position d'intercepter très efficacement le trafic en direction ou en provenance de la Campanie a certainement compté davantage dans les mobiles du choix du site de Rome qu'une appréciation des commodités naturelles que le lieu pouvait offrir à la croissance éventuelle d'une grande ville. La principale de ces commodités, celle qu'offrait la navigation du Tibre, ne devait être mise à profit que beaucoup plus tard, en des temps où la ville avait pris déjà des proportions que ne pouvaient prévoir ses fondateurs. Elle dut grandir, en fait, sur un terrain inégal et dont les mouvements manquent d'ampleur. Le malaise de sa croissance se révèle à quiconque découvre pour la première fois l'entassement des monuments du Forum dans l'étroite dépression qui sépare le Capitole du Palatin.
En 1952, Roger Dion, géographe historien, présentait le site de Rome. Ici, nous avons un panorama assez sombre avec ce site présenté de manière géographique qui n'est pas le plus propice. Et puis, vous, Michel Tarpin, vous nous ajoutez ça avec un climat, une situation qui, là aussi, n'est pas favorable à la santé. Mais ça n'empêche pas, et c'est là qu'on voit la détermination géographique complètement relativisée, ce qui ne veut rien dire. On s'installe là où l'on peut se développer. D'ailleurs, ça motive le fait d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des ressources, et on l'entend bien. C'est ça qui fait que les Romains ont cette image d'être des pilleurs au sens où, à chaque combat, ils reviennent avec un butin.
Oui, alors quelquefois, ça se fait sous des formes plus polies, on peut dire. On a des cas de famine au 5e siècle à Rome, et on va simplement, de l'autre côté du Tibre, demander du blé aux Étrusques. Alors au début, ça marche à peu près. Quand les Romains commencent à taper sur les Étrusques leur répondent que c'est bien gentil, mais qu'ils vont quand même pas donner du blé à des gens qui viennent les agresser régulièrement. Mais Roger Dion a tout à fait raison, il est un des premiers à voir que, contrairement à ce que prétend Cicéron sur le charme de Rome, etc., et tous les avantages de ce lieu, en fait, non, d'un point de vue de géographe, et il connaît bien l'histoire aussi, dans ce cas-là, l'endroit n'est pas du tout favorable. C'était repris par Christian Goudineau, après, qui rappelle bien que si on veut survivre à Rome, il faut aller prendre des choses ailleurs.
Ah oui, et là nous avons
donc dès le départ, on est imbringué dans l'histoire.
Avec ce contexte du moment, parce que au moment où Rome se développe, il y a déjà tant et tant d'expériences de guerre, et nous pensons évidemment aux Grecs. Qu'en est-il d'ailleurs de la notion de pillage, de trophée chez les Grecs? Ça existe déjà aussi?
Alors, le trophée, c'est grec, c'est pas romain. Justement. D'abord, c'est un mot grec, tropaion. Mais ça, c'est pas du tout dans la culture romaine. Ça a été vu dans les années 50, mais c'est vrai que ça n'a pas été bien lu, en fait.
Ah oui.
Depuis l'époque, les Grecs ont une pratique du trophée. Cicéron l'explique bien. Le trophée, ça consiste à planter un poteau en bois sur lequel on accroche quelques-unes des plus belles armes de l'ennemi sur le champ de bataille. Mais, Cicéron le dit bien, pour les Grecs, ça doit être périssable. Parce qu'on ne peut pas construire un monument pérenne de la haine entre deux peuples. De même que les Grecs ne font normalement pas de traité à perpétuité. leurs traités de paix ou déclarations de guerre, c'est toujours avec une durée limitée. Donc on veut bien faire la paix, mais on se dit bien qu'un jour ou l'autre on va se retrouver en conflit, donc on donne une limite à la paix. Pour les Romains, le trophée, quelque chose qu'on fait plutôt à Rome, j'avais essayé de recenser les trophées sur le champ de bataille, il y en a très peu. Il y en a très peu, et quelquefois c'est parce que c'est justement dans le monde grec et qu'on veut manifester à la grecque la victoire. Il y a un cas où César en construit un, mais c'est pour cacher un trophée de Mithridate, qui ne peut pas détruire parce que le trophée est consacré. Donc il en construit un plus grand devant pour le cacher, en fait, pour indiquer que lui était vainqueur, là où Mithridate l'avait été auparavant sur des Romains.
Oui, parce que c'est très symbolique, un trophée, hein, c'est cette accumulation d'armes, de cuirasses, pour montrer que...
Alors, ça n'est pas une accumulation, le trophée, proprement dit, c'est le poteau avec la cuirasse, le casque au-dessus, bouclier, et deux, trois lances. C'est très sommaire, en fait. On le voit représenté pas mal à Rome. On en a... Alors, les plus connus sont les trophées de marbre qui sont sur le Campidoglio. On en fait en bronze, on fait le triomphe de Pompée, quand on est des trophées sculptés, en fait. Mais c'est un détournement. Et en latin, quand on parle de trophée, c'est simplement un symbole de victoire.
Oui, c'est ça, hein, c'est-à-dire détournement du trophée, où l'on représente sous forme de sculpture, de bas-relief, un casque, une cuirasse, les lances. Et voilà. C'est un élément d'architecture que nous voyons souvent, hein, c'est une décoration.
Oui, non, ce que les Romains représentent très volontiers, par contre, c'est l'amas d'armes.
L'amas d'armes, c'est-à-dire on empile là toutes les armes.
On empile toutes les armes. Alors c'est pas eux qui ont inventé ce thème, mais ils l'utilisent fréquemment. C'est qu'ils brûlent une partie des armes.
Avec ici cet univers antique, et là nous sommes dans cette antiquité de la Rome mais républicaine. Et la Rome républicaine rencontre d'autres ennemis parce que c'est pas toujours Rome qui gagne.
Manquant d'espoir aussi bien que de vivre. Les Romains, dont le corps exténué fléchissait presque quand ils se rendaient à leur poste sous le poids de leurs armes, décidèrent qu'il fallait, à quelque condition que ce fût, se rendre ou se racheter. Alors le Sénat s'assembla et chargea les tribuns militaires de traiter. Une entrevue eut lieu entre le tribun Quintus Suspicius et Brennus, chef des Gaulois. Ils convinrent des conditions et 1000 livres d'or furent la rançon de ce peuple qui devait bientôt commander au monde. À cette transaction déjà si honteuse, s'ajouta une nouvelle humiliation. Les Gaulois ayant apporté le faux poids que le tribun refusait, Brennus mit encore son épée dans la balance et fit entendre cette parole si dure pour les Romains, malheur aux vaincus.
Thomas Beau qui lisait l'histoire romaine de Tite Live, et ici nous sommes avec le sac de Rome par les Gaulois en 390 avant Jésus-Christ. Donc là c'est Rome qui est vaincue. L'idée d'imposer...
Elle n'est pas vaincue. Il y a un petit jeu de droit qui est extraordinaire là-dedans, c'est que Rome a traité et négocié le départ des Gaulois. Mais en fait Rome n'est jamais officiellement vaincu pour une raison très simple, c'est que Rome ne fait jamais sa reddition et que tant que le Sénat reste dans Rome et tant qu'il reste le Capitole ou en tout cas une des collines fortifiées qui n'est pas prise, il n'y a pas de défaite. C'est ce qui se passe dans l'affaire des fourches caudines où en fait toute l'armée romaine est encerclée par les Samnites, doit se rendre, sauf que pour qu'il y ait une véritable reddition au sens où le droit romain l'accepte, il faut qu'il y ait des plénipotentiaires qui fassent la reddition. Or, le Sénat n'autorise pas un magistrat, même un consul, à rendre la cité de Rome. Il peut rendre son armée, mais pas la cité. Ce qui fait que Rome n'est jamais vaincue.
Ah mais dites donc, Michel Tarpin, c'est fort de dire cela, oui, c'est bien.
Ben c'est une argutie juridique, et en fait, Rome a inventé... une procédure de reddition très particulière, qui est très lourde. Tite Live en donne le texte. Mais il en donne le texte à un moment où ce sont les autres qui se rendent. Et la reddition, telle que Rome peut l'accepter, par la part d'un vaincu, c'est vous rendez totalement le sol, les dieux, les eaux, les bâtiments, tous les humains. Vous les remettez à la discrétion de Rome. Les Grecs le comprennent très mal. Eux pensent qu'effectivement, quand on est vaincu, on négocie et on traite. Pour Rome, non. on ne traite surtout pas, on ne laisse pas l'autre traiter. Et en fait, une fois qu'on s'est approprié tout, toute la cité avec ses terres et son territoire, on peut éventuellement laisser les gens continuer à vivre sur place, mais ils n'ont que l'usufruit. Et on peut revenir trois générations après en disant, ben en fait, on a besoin de on reprend tout ça.
Mais en 390 avant Jésus-Christ, quand les Gaulois de Brennus assiègent et mettent le sac dans cette ville de Rome, eh bien, on a un pillage, mais c'est à l'image du pillage qui peut se pratiquer ailleurs. L'expression utilisée « malheur aux vaincus » par les Gaulois envers les Romains est-elle une expression que les Romains pouvaient utiliser envers ceux qu'ils ont vaincus ?
Oui, alors ils ne le font pas parce qu'ils donnent un aspect beaucoup plus juridique. Et puis, les Gaulois ne venaient pas pour piller Rome. Les Gaulois venaient pour venger une infraction très grave au droit international.
Puisque, c'est-à-dire
trois ambassadeurs romains qui avaient été envoyés pour essayer de calmer le jeu entre Étrusques et Gaulois ont participé à la bataille et l'un de ces jeunes Romains a tué un des chefs gaulois de sa main. Donc les Gaulois, à ce moment-là, replient leurs troupes, on arrête la bataille. On ne sait pas ce que pensent les Étrusques, mais il est probable qu'ils sont eux-mêmes très choqués parce que c'est une impiété. Et c'est une impiété qui s'est faite de leur côté, d'une certaine manière. Donc c'est très compliqué. Les Gaulois demandent réparation par voie diplomatique. Les Romains refusent parce que les jeunes gens sont de grandes familles. Et donc les Gaulois disent « Ok, vous avez commis une impiété grave, quelque chose qui est contre tous les traités, contre tout le droit international. Donc, on va vous taper dessus. » D'accord. Mais ils ne cherchent pas à prendre Rome. D'ailleurs, une fois qu'ils sont payés, ils repartent.
Dans ce monde romain, donc on l'entend bien ici, Michel Tarpin, le pillage est présent au moment de la guerre, mais l'idée même de pillage, puisque le droit est souvent évoqué, entre-t-il dans des considérations juridiques ? Est-ce que le pillage est, je ne sais pas moi, théorisé, réfléchi ? Est-ce qu'il apparaît dans ce droit ?
Alors, ce qui apparaît dans le droit, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'effectivement, la victoire donne le droit de prendre les affaires du vaincu. Ça, c'est du droit international, ce qu'on appelle le droit des gens, le jus gentium. C'est quelque chose qui est normal pour tous les peuples de l'Antiquité, de manière tout à fait classique. Et puis après, il y a des séries de rituels, et les Romains, en plus, rajoutent quelque chose d'assez complexe. C'est un lexique du butin. Qui leur est propre et qui permet de définir des catégories pour... Alors, ce n'est pas du tout vis-à-vis des autres. Les autres, à partir du moment... Les autres, s'ils font leur reddition ou s'ils sont vraiment vaincus formellement... Alors, vaincus formellement pour un peuple, ça veut dire que l'on peut briser le mur et rentrer dans leur cité. Le rituel nécessite ensuite qu'on commence par massacrer un peu tout ce qui passe... Alors, c'est plutôt chez les auteurs grecs qu'on trouve les descriptions précises de la violence d'une prise de ville par Rome. Et puis, ensuite, on va tout rafler pour organiser. Et il y a un système de partage. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez bien formalisé. Donc, on est entre le rituel et le droit.
Un vocabulaire particulier avec l'idée de répartir le bulletin entre tous ceux qui ont participé au combat ?
Alors, normalement, oui. Même ceux qui n'ont pas forcément participé. Hein, le texte de Polybe sur Carthagène dit bien que les soldats qui sont restés de garde au camp, les blessés, ceux qui sont en mission pour des raisons X ou Y, ont droit à leur part de butin récupérée par leurs camarades. Donc, Polybe présente justement ce modèle extraordinaire pour lui d'une armée romaine tellement organisée que le partage est parfaitement égalitaire. Sauf pour le chef.
Il a plus.
Surtout, il y a toute une catégorie qui relève uniquement de lui.
Dès que le nombre des troupes introduites dans la ville fut suffisant, Scipion en détacha, suivant la coutume, la plus grande partie contre les assiégés, avec ordre de tuer quiconque se présenterait, sans rien épargner, et de ne se livrer au pillage qu'à un signal donné. Cette extermination est un usage que les Romains ont adopté sans doute pour imprimer la terreur. Aussi, voit-on souvent dans les villes dont ils sont devenus maîtres, non seulement des hommes égorgés, mais encore des chiens coupés en deux et les membres épars d'autres animaux. Le signal donné, on cessa le carnage et le pillage commença. Lorsque la nuit fut arrivée, Scipion fit commander par ses tribuns aux autres soldats de quitter les maisons qu'ils pillaient, de réunir leur butin sur la place publique et de veiller alentour.
En Henriane Delacroix qui nous lisait ici dans le cours de l'histoire sur France Culture cet extrait de Polypolybe, donc auteur grec, hein, deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui évoque...
Pro-romain.
Pardon ?
Grec pro-romain.
Oui, pro-romain, c'est vrai, c'est bien de le souligner, et qui évoque ici la conquête par Scipion l'Africain de Carthagène notamment. On est en 209 avant Jésus-Christ, et l'idée du pillage... Mais le pillage presque pour la terreur, parce que l'idée de tuer les gens, de tuer les animaux, fait aussi que le pillage a un autre rôle que simplement accumuler un butin.
Alors, le meurtre rituel ne fait pas partie du pillage. C'est qu'on l'explique généralement comme un moyen de terroriser. En même temps, ça n'a plus aucun sens, puisque à ce moment-là, la ville est prise. Moi, je le perçois plutôt comme une extermination relativement symbolique. Et on voit d'ailleurs inversement la réaction, en particulier chez les Espagnols, est qu'une communauté vaincue n'existe plus, et donc que certains vaincus font le choix volontaire du suicide collectif. Donc généralement les femmes tuent les enfants avant de se suicider, pendant que les hommes, eux, résistent et se font massacrer sur place contre les Romains. Et il y a un cas en Espagne, effectivement, où les Espagnols brûlent tout, et en particulier brûlent les métaux précieux. Et quand ils veulent être vraiment sournois, ils mélangent l'or, l'argent, le plomb et le bronze. Alors quel est l'intérêt de la chose? J'avais posé la question à Claude Domergue, c'est qu'une fois que cet alliage a fondu, on ne peut plus redissocier les métaux précieux.
Ah oui, donc c'est pour priver c'est l'idée, les vainqueurs du butin.
Priver les vainqueurs du butin, c'est-à-dire, on les prive, et les Tite-Live dit bien, dans ce cas-là, on les prive de la victoire. Parce que si on ne prend rien à l'ennemi, si l'ennemi s'auto-détruit, et ben finalement, c'est beaucoup d'efforts pour rien du tout.
Dans l'idée ici du pillage, donc il y a plusieurs pistes à développer, bien sûr, l'idée de piller. Parce que symboliquement, dans la pratique de la guerre, il faut piller. L'idée de piller aussi, parce que ça rapporte un butin, enfin, ça rapporte de l'argent. Est-ce que c'est par le pillage que l'armée est payée?
Oui et non. Là, de nouveau, si on remonte à ces textes de Tite-Live à propos du 5e siècle, hein, que j'évoquais, effectivement, l'idée, c'est... Lui voit ça comme quelque chose entre des petites agglomérations assez rurales. Donc il y a des Volsques ou d'autres, enfin, un autre peuple voisin qui vient piquer les moutons et les vaches des Romains, enfin, un ensemble de Romains. Aussitôt, on sonne l'alerte. Un certain nombre de jeunes gens qui sont disponibles prennent leurs armes, galopent après les pillards qui, eux, n'avancent pas très vite, évidemment, leur tapent dessus, récupèrent tout ça et leur embarquent un peu de quoi faire un méchoui supplémentaire. Les ramène, on rend donc aux propriétaires initiaux et ce qui dépasse sert effectivement à récompenser les quelques-uns qui ont participé à la campagne de manière assez peu structurée finalement. Par la suite, effectivement, il y a un débat assez compliqué avec les spécialistes d'histoire économique qui ont toujours considéré que les guerres de Rome ne payaient pas les guerres. Et ça, c'est un problème qu'on a aussi chez nous, pour des histoires plus récentes, savoir est-ce que les colonies étaient vraiment rentables pour l'ensemble de la France ou est-ce qu'elles n'ont été rentables que pour quelques personnes aux frais du contribuable. Et donc, dans le cas qui nous concerne, la question, c'est pouvoir calculer les butins. Parce que Tite-Live donne, lors de certains triomphes, une partie du butin, sauf que les économistes ont considéré que c'est, n'ont pris en compte que cette partie-là, et on l'ont opposé au paiement de la solde complète à toute l'armée. Mais d'une part, comme le rappelle Caton en Espagne, il dit de toute façon, il n'y aura pas tous les soldats qui vont revenir, donc on n'a pas à payer tout le monde, ça réduit déjà un peu les choses. Et puis surtout, il y a tout un tas de catégories qu'on n'a pas pris en compte, et le fait que les soldats vivant sur le pays, généralement, on n'a pas besoin de payer la solde ou pas la solde en entier. Donc du point de vue de l'État, moi je pense plutôt, enfin si je reprends, je l'ai fait pour un article qui n'est pas publié, tout l'ensemble de ces butins, ça paye. Généralement, ça paye la guerre. Il y a des cas où ça marche plus très bien. Les guerres d'Auguste, au-delà du Rhin, chez des Germains qui n'ont à peu près rien, c'est vraiment pas rentable. Et à partir du début de l'Empire, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins de pillages et beaucoup moins de ces grandes guerres de conquête. C'est pas très rentable. Autant les guerres d'Orient, il y a de l'or, de l'argent pléthorique. Au-delà du Rhin, à part la gloire d'aller massacrer des Germains, il n'y a pas grand-chose.
Alors que deux siècles avant Jésus-Christ, vous venez de citer Caton, il y a une cible de choix avec une richesse considérable, ou au moins fantasmée, c'est Carthage.
Carthage fut avant tout, grâce à sa marine marchande, à sa marine de guerre et grâce à son empire, un grand centre de redistribution des matières premières. Les caravanes du Soudan apportaient dans les Sirtes l'or et les esclaves. Carthage importait et répartissait ensuite le blé, l'argent et le cuivre de Sardaigne, à date haute, les minerais d'Étrurie, l'argent d'Espagne, les peaux et l'ivoire du Sénégal. La route maritime de l'étain était entre ses mains. Ce monopole commercial était bien défendu par des traités de commerce qui interdisaient aux marchands étrangers d'aborder en Afrique ailleurs que dans son port. L'agriculture fut développée tardivement par les grands propriétaires puniques. Ceux-ci devinrent cependant, dans leur vaste domaine de vignes et d'oliviers, des planteurs exemplaires. L'industrie, relativement peu développée, comprenait surtout des teintureries de pourpre, des ateliers de tissage et de préparation des cuirs. L'art carthaginois fut peu original et étroitement tributaire de l'art grec et de l'art égyptien. Les fouilles actuelles des nécropoles puniques confirment ce manque de personnalité artistique et la profonde influence de l'hellénisme sur Carthage.
L'historien Raymond Bloch qui s'exprimait ici en 1952 à propos de Carthage. Dites-nous, Michel Tarpin, c'est vrai que Carthage, là, il y a l'idée d'un enrichissement de Rome par le pillage. Dans la notion de pillage, est-ce que tout est pris? Est-ce que la volonté, c'est de rasier l'intégralité des biens, les animaux, les objets précieux et pourquoi pas les esclaves?
Alors, il y a deux points. Alors, d'une part, Carthage n'est pas la cible la plus rentable hein, du deuxième siècle avant notre ère. Carthage est surtout une élimination, c'est vraiment Caton, justement, d'Elenda Carthago. Parce que tout simplement, le Sénat s'est rendu compte que Carthage se relève beaucoup trop vite de sa défaite. Carthage, en fait, n'a pas vraiment d'or et d'argent sur place. Mais à partir des années 230 avant notre ère, Rome se rend compte que Carthage est en train de s'étendre en Espagne et qu'en Espagne, elle a trouvé de l'or. Donc, le programme romain est très vite mis en place. On va faire la guerre aux Carthaginois. Oui, il y a toujours l'idée que c'est Hannibal qui attaque parce que vengeance, qu'il a juré à son père et tout, mais pas du tout. En fait, Hannibal savait pertinemment que les Romains se préparait à aller en Espagne pour lui faire la guerre. Donc il a pris les devants. Donc le programme romain est très simple. On commence par éliminer tous les Gaulois qui sont au sud des Alpes, d'autant que eux ils ont de l'or. Rome n'a pas d'or. Il n'y a pas de mine d'or et d'argent en Italie centrale subapenninique. On l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans l'idée qu'au 3e, 2e siècle avant notre ère, il y a un énorme commerce international qui se fait avec une monnaie d'or qui est le stater de macédonien comme étalon. Et les Gaulois de Bohême, de Moravie, de Basse-Autriche en ont des quantités phénoménales. C'est-à-dire qu'ils frappent eux-mêmes des monnaies à cet étalon international. Imaginez tout d'un coup que toute l'Europe se mette à frapper du dollar, par exemple. Et donc, les Gaulois peuvent agir sur le marché international, ils ont de l'or. Donc, l'idée de Rome, c'est on élimine les Gaulois, on leur pique au passage tout ce qu'on peut leur piquer, et c'est quand même pas négligeable du tout. Et une fois qu'on a éliminé les Gaulois, on attaque les Carthaginois pour piquer les mines d'or qu'ils sont en train de découvrir en Espagne. Donc, une chose après, les Romains courent après l'or en permanence. C'est très net, par exemple, en 225 avant ça, il y a un enchaînement très rapide. En 230, le Sénat interdit, Dion Cassius dit à ses sujets, donc ses alliés, hein, mais alliés de Rome, c'est un sujet, hein, il faut être clair, leur interdit de faire du commerce avec les Gaulois pour ne pas les enrichir. Sauf qu'on voit mal comment des Romains ou des Toscans pourraient payer en or, des marchandises gauloises, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qui serait importé. Par contre, les Gaulois, eux, peuvent acheter des produits italiens. Et en fait, on a des Grecs, des Carthaginois, des Gaulois qui, eux, sont dans une économie sur un étalon or qui fonctionne relativement bien. Et au milieu, il y a des Romains qui n'ont pas tout ça, qui décident de se l'approprier par le seul moyen qu'ils ont de le faire, puisque ce ne sont pas des commerçants, ce ne sont pas des artisans non plus. Et donc, le bon moyen pour eux, c'est la guerre. Et ils la font bien systématique. Donc, il y a ces histoires-là. On dit de même, en 225, voilà, c'est les Gaulois qui décident d'attaquer Rome une nouvelle fois. En fait, ils attaquent Rome parce qu'ils savent très bien qu'il y a une décision de les exterminer qui a été faite. Et voilà, comme ça n'a pas marché, ben Hannibal, lui aussi, prend les devants et attaque Rome. Donc, à chaque fois, Dion est très intéressant parce qu'il permet d'éviter les prétextes que Tite-Live rajoute pour légitimer systématiquement l'action de Rome, et on voit bien qu'en fait, il y a un projet d'expansion, d'appropriation de territoire, qui est parfaitement mis, qui est considéré comme légitime.
Oui. C'est ça, hein, c'est pensé comme légitime et dès lors le pillage est légitime puisqu'il s'inscrit de toute façon dans la manière de pratiquer la guerre.
Il faut des matières premières. On ne vit dans le commerce international que par l'or. Donc s'il y a de l'or chez les voisins, il est légitime de l'or prendre. Ça fait partie de la sécurisation du territoire national.
Donc l'Espagne pour l'or. Il y a Carthage parce qu'on l'a bien compris, Carthage, des liens avec l'Espagne. La Gaule, bien sûr. Où trouve-t-on de l'or encore, ce qui pourrait intéresser
En Orient, début 2e siècle avant notre ère, c'est très rapidement la guerre à la Macédoine, qui est richissime, puisque c'est elle qui frappe les étalons, la monnaie étalon du grand commerce méditerranéen. Et puis ensuite, le royaume de Syrie, qui est lui aussi richissime.
Avec l'idée pour ces Romains de pratiquer des guerres, au sens où ils la trouvent juste, où ils la justifient. On s'empare des richesses, ces richesses donc, je disais, diverses, parce que l'or c'est une chose, mais il n'y a pas que l'or, il y a tout ce qui peut représenter des biens, au plus près des soldats eux-mêmes, j'imagine, la nourriture, tout ce qui est là, jusqu'aux esclaves.
Oui, alors les esclaves, ce sont les captifs, avec deux catégories qui sont les captifs libres et les captifs esclaves. Oui, un captif libre, c'est un concept bizarre, mais c'est le seul moyen de le dire. L'esclave étant statutairement dans toutes les cultures un objet parlant dans le droit romain, capturer un esclave, c'est comme capturer un objet. Par contre, évidemment, les libres, quand on les capture, on transforme leur statut pour en faire des esclaves. Ils seront généralement vendus. Alors, on ne fait pas ça dans toutes les cités, tout le temps, avec tout le monde, parce que, dans certains cas, comme on ne sait pas très bien quoi faire du territoire qu'on vient de prendre, on laisse les gens sur place, mais en leur imposant une taxe, ce qui est une solution. César, par contre, fait de la vente en gros. Il explique bien qu'il vend par lot. Donc il fait un décompte global et il négocie avec des grossistes le prix. Alors, je ne sais absolument pas comment les grossistes ensuite peuvent partir du nord de la France avec des dizaines de milliers d'esclaves pour aller les vendre sur le marché à Marseille ou en Italie. On n'est pas documenté là-dessus, mais c'est un des grands profits et qui souvent va ensuite dans le trésor public. Mais la vente des esclaves, effectivement, fait partie des grands profits. Alors une des différences notables quand même, c'est que les guerres en Orient, ce ne sont pas des guerres d'extermination comme elles le sont en Occident. Au début, on traite avec les rois, et puis progressivement, on prend leur place. Mais on n'a pas de reddition formelle, on a plutôt des traités.
D'accord, plutôt des traités. La notion même d'extermination, il faut le comprendre comment. C'est-à-dire, il n'y a pas la volonté de détruire toutes les populations en Occident.
Pour les Gaulois d'Italie, oui.
Les Gaulois d'Italie, d'accord.
Oui, alors ça c'est très drôle, là je fais une petite parenthèse, mais qui était très amusante, parce que c'est du contemporain. Il y a une carte qui circule énormément sur Wikipédia, qui a été faite par un amateur français, mais assez bien documentée, qui est soit étiquetée carte des dialectes pré-romains, soit carte des peuples pré-romains, avec une confusion intéressante, selon les sites et selon les langues, parce que on retrouve la carte dans toutes les langues sur Wikipédia. Et elle est très amusante cette carte, parce qu'au nord du Pô, dans l'actuelle Lombardie, la carte est blanche. Et ça reflète le mode de pensée romain qui a été repris lors du Risorgimento dans la pensée italienne, c'est que on nie la présence de Celtes natifs au sud des Alpes. Alors qu'en fait, ils sont là au moins depuis le 8e, 7e siècle avant notre ère. Donc avant même que les Étrusques ne commencent à grimper de ce côté-là, il y a des Celtes. Sauf que les Celtes, pour les Italiens, c'est les gens de l'autre côté des Alpes, et en particulier, c'est les Autrichiens.
Ah oui.
Avec qui ils ont quand même un contentieux séculaire compliqué. Voilà, vous voyez comment finalement ça, les mentalités et l'histoire plus récente vient perturber ce genre de choses. Mais pour les Romains, dans l'Antiquité, les Gaulois doivent être exterminés effectivement parce qu'ils représentent un danger.
Et puis il faut dans tous les cas, une fois qu'il y a la guerre, profiter du butin. Le butin, on l'entend bien, pour des raisons extrêmement concrètes de butin, pour des raisons symboliques aussi, mais le symbole n'est jamais autant puissant et d'ailleurs visible que lors des triomphes.
La pompe triomphale fut répartie sur 3 journées. La première suffit à peine à voir défiler les statues, les tableaux, les colosses pris à l'ennemi, que transporter 250 chars. Le lendemain, on vit passer sur un grand nombre de chariots les plus belles et les plus riches armes des Macédoniens, tout étincelant d'airain et de fer fraîchement fourbi. On les avait placées avec art et rangées de telle sorte qu'elles parussent avoir été jetées les unes sur les autres, pêle-mêle et au hasard. Les casques près des boucliers, les cuirasses sur les jambards, les boucliers crétois et ceux des Thraces qui étaient en osier, les carquois mêlés aux morts des chevaux, et parmi tout cela, des épées nues dressées en l'air et des saris fichés à côté d'elles.
Ici, nous avions Plutarque et sa vie des illustres, sa vie des hommes illustres. Avec Plutarque, nous sommes fin 1er siècle, début 2e siècle, et il parle d'ici d'une bataille qui a eu lieu bien plus tôt, qui a eu lieu en 168 avant Jésus-Christ, en Macédoine, le général Paul Émile, qui bénéficie d'un triomphe à Rome. Alors le triomphe, est-ce l'exposition publique du butin ?
Alors c'est en partie ça. Le triomphe, il y a eu beaucoup d'études sur le triomphe, mais qui ne sont pas toujours reparties vraiment de la question de quand est-ce qu'il commence. On ne sait pas.
On ne connaît pas le premier triomphe.
C'est-à-dire qu'il y a, il y a plusieurs possibilités. On dit souvent que c'est Romulus rentrant avec les dépouilles opimes, mais en fait, non, parce que ce que décrit Tite-Live, c'est quelque chose qui n'est pas la procédure du triomphe. Dans le triomphe, le général rentre avec son armée en marche. J'aurais tendance à penser plutôt, parce que j'évoquais ces guerres très primitives, on va reprendre le butin. Et en fait, le triomphe, c'est une formalisation du retour de l'armée vainqueur avec effectivement son butin qu'on présente. Et tout le monde peut voir comme ça concrètement. D'ailleurs, il y a une règle qui est quelquefois violée, mais qui normalement s'impose, qui est de revenir avec l'armée de manière à ce que les soldats puissent témoigner véritablement du triomphe et que le général n'aille pas bidouiller un peu sa victoire ou n'aille pas masquer des pertes trop importantes, par exemple. Alors, on a parlé d'un droit du triomphe. En fait, il y a un texte qui mentionne un truc de droit. En fait, le texte le plus fondamental, c'est celui de Polybe au livre 6, quand il fait sa description ethnologique de Rome. Et il dit que le Sénat a une puissance extraordinaire parce que c'est lui qui maîtrise les finances. Et dit-il, en particulier, c'est lui qui décide s'il va financer ou pas le triomphe. Mais c'est de nouveau un problème de droit. C'est-à-dire que lorsque c'est un consul ou un dictateur qui va triompher, il n'a pas besoin d'autorisation particulière puisque son imperium lui permet de rentrer avec ses troupes dans Rome. Lorsque c'est un pro-magistrat, donc quelqu'un qui était prorogé ou, après les lois de 51 avant notre ère, quelqu'un qui a été nommé pro-magistrat, comme Cicéron quand il part en Cilicie, lui n'a pas le droit d'entrer dans Rome. Il doit donc se faire voter, avec l'aval du Sénat, un imperium de 24 heures, enfin d'une journée, qui lui permet de rentrer avec son armée dans Rome, et ensuite tout le monde se sépare. Donc il y a un contexte juridique, mais qui est surtout lié à des questions religieuses, qui est rentrer en armes dans Rome, qui normalement n'est pas possible, sauf des cas particuliers. Donc on présente le butin, effectivement, on présente les captifs aussi, et les captifs doivent jouer leur rôle. De cette manière, on le voit bien dans la description de triomphe, même le triomphe hypothétique. Quand c'est des barbares, ils doivent avoir l'air orgueilleux, être barbus, chevelus, etc. Parce qu'il faut qu'ils aient l'air vraiment barbares et bien montrer qu'on a affronté des gens qui étaient des brutes. Dans le cas de Persée, donc le triomphe de Paul Émile, il y a un passage assez étonnant, je crois que c'est Plutarque aussi qui le dit, ou Tite-Live, qui dit que les précepteurs expliquent aux enfants l'attitude qu'ils doivent avoir. Parce que les enfants, on leur présente dans une fête. Le problème, c'est que c'est les enfants du roi, ils sont vaincus. Et donc, on leur explique qu'ils doivent avoir l'air affligés parce qu'ils font partie des vaincus et doivent l'être comme ça. Et normalement, on tue le chef ennemi au passage pendant le triomphe, ce qui est aussi un des éléments de l'extermination. Alors, simplement, pour Persée...
Persée, c'est le roi de Macédoine.
Le roi de Macédoine, on ne peut pas le tuer directement comme ça parce que le reste du monde méditerranéen hurlerait au scandale. Je présume, ça n'est pas indiqué, mais je présume qu'on a simplement pris un de ses généraux qu'on a exécuté. Mais Persée est envoyé après dans une petite ville en Italie. Et on le fait mourir en l'empêchant de dormir.
Ah bon ? Quelle mort cruelle !
Alors, la notion de cruauté pour les Romains appliquée à quelqu'un qui n'est pas Romain, même un Romain d'ailleurs, sinon c'est pas un souci.
C'est pas un souci.
C'est le Carthaginois qui est cruel.
D'accord. Dans l'univers romain, le Carthaginois est perçu comme cruel et le Romain ne pense pas à la cruauté.
Ben, c'est un vieux principe humain, c'est comment dire, c'est l'aliénité de celui que l'on s'apprête à tuer. On ne peut pas tuer quelqu'un qu'on identifie comme soi-même ou comme proche de soi. Donc il faut créer quelque part. Et donc pour le Carthaginois, ça a été ça. Pour le Gaulois, c'est sa barbarité. C'est tout à fait étonnant, parce que les historiens admettent toujours cette idée que le Gaulois, d'abord, est chevelu, habillé de manière extrêmement sommaire, et qu'il est agressif et guerrier. Ce qui est très drôle, parce qu'en fait, Caton l'Ancien, qui lui savait à peu près ce qu'il écrivait, dit que chez les Gaulois, les deux choses essentielles, c'est l'art de la parole et l'art de la guerre. Mais il dit bien l'art de la guerre. Il ne dit pas faire la guerre et l'art de la parole. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes qualités qu'un Romain de l'aristocratie qui doit être un bon orateur et un bon guerrier. Et quand il parle des Ligures, en revanche, là, il en fait des paysans pillards, etc. Et donc, le Celte n'est pas du tout... Il y a une image du Celte qui est fabriquée progressivement, à partir de Brennus, justement, et qui permet, qui était parfaitement adopteur. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, la Troisième République a inscrit le français dans l'héritage de ce Gaulois barbare, chevelu, indiscipliné, qu'on retrouve dans les bagarres d'Astérix.
C'est celui-là. Oui. Avec ces stéréotypes déjà en place, et dans ces stéréotypes-là, il y a, pour l'historien Michel Tarpin, des sources pour étudier le triomphe, parce que le triomphe, nous l'avons évoqué de manière littéraire, notamment avec Plutarque, mais il se retrouve ailleurs. Et puis, il y a ce que vous avez cité, ces triomphes stéréotypés, au sens où ils ne représentent pas foncièrement un triomphe précis, où chaque personnage doit répondre à l'attente du moment. Et dans ces triomphes-là, représentés sous forme de bas-reliefs, par exemple, on voit des trésors, on voit des vases, on voit des objets transportés, ramenés à Rome symboliquement.
Alors, on n'en a pas beaucoup et souvent, ce sont des petites frises. Il y a une exception que vous avez mentionnée au tout début de l'émission, qui est effectivement l'intérieur de l'arc de Titus, parce qu'on y a fait figurer, sur un des côtés, deux éléments ethnologiques fondamentaux qui indiquent bien, qui définissent le triomphe sur Jérusalem. Mais les autres petites frises qu'on a, aussi sur l'arc de Titus, sont en fait beaucoup plus génériques, on va dire, parce qu'en fait, c'est pas indispensable. Tout le monde identifie que c'est un triomphe, et après, le détail, il est écrit, il est compté ailleurs, les questeurs ont enregistré ce qui est rentré dans le trésor, donc ça n'est pas vraiment utile. En revanche, ce que notent certaines sources et qui évidemment n'est pas enregistré, c'est le fait que certains gros butins ont des conséquences financières dramatiques.
Comment ça ?
Si vous ramenez énormément d'or et d'argent et que vous le distribuez, c'est le prix de la terre qui va tout d'un coup flamber, le cours de l'argent qui va s'effondrer. C'est comme faire tourner la planche à billets dans nos sociétés actuelles. Et ça, on n'en est pas très bien conscient. Ça arrive à Octavien quand il revient d'Alexandrie avec l'ambre butin égyptien. Et là, il y a effectivement une chute du prix de l'or qui est monumentale. Et en revanche, le prix de la terre, qui est une valeur beaucoup plus stable, augmente énormément parce que tout le monde veut acheter et tout le monde a de l'or, donc les propriétaires font remonter. L'aspect économique du butin, à mon sens, c'est quelque chose qui peut encore justifier pas mal de recherches.
Oui, parce qu'ici, il y a tellement de travaux à effectuer avec des sources, non pas difficiles d'accès, mais la nécessité...
Incomplète.
Incomplète, et puis de savoir les lire, parce que cette notion de pillage de butin apparaît un peu partout dans différentes sources, mais pour en avoir une lecture globale, il faut se saisir de cet ensemble. Il est facile ou concevable d'imaginer une chronologie de la perception du butin, de ce que nous évoquions en début d'émission avec ces premiers butins à quelques kilomètres et l'évolution que vous nous avez expliquée, Michel Tarpin, de plus en plus codifiée de ce butin, cette nécessité de bénéficier de monnaie, de métal. Est-ce que on voit l'évolution de la perception du butin?
En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les trois termes qui sont spécifiques pour le butin, praedas, polia, manubier, ces trois termes sont absolument continues. Les Romains n'aiment pas tellement créer des néologismes. Le grec est beaucoup plus souple de ce point de vue-là et permet beaucoup plus d'arrangement de mots. Donc on a les mêmes trois mots latins qui ont servi à la fois à évoquer le butin consistant à aller prendre des moutons chez les Volsques et pour finir à aller prendre des trésors royaux en Orient, donc des choses qui n'ont rien à voir. Ou tout simplement, vous avez évoqué Paul Émile tout à l'heure, Paul Émile, dans les manuels d'histoire actuels, est un grand helléniste, un grand hellénophile, on va dire, il aime les Grecs, etc. C'est un personnage, il est ignoble ce personnage. Enfin,
le c'est le général qui a combattu le roi macédonien.
Oui, Persée, c'est le vainqueur de Persée, mais c'est un personnage absolument effroyable. Il va jusqu'à... faire connaître ses décisions aux Grecs après sa victoire, en latin, en se faisant traduire par son préteur, il parle parfaitement le grec. Mais quand Flamininus, lui, annonce la liberté des Grecs, il réunit tous les Grecs et il leur fait un discours en grec. Paul Émile, il réunit les Grecs, il se met sur sa tribune, il met ses licteurs avec les faisceaux qui ont la hache, signe de son pouvoir d'exécution judiciaire, et il prononce un discours en latin. Et ensuite, ces soldats n'ayant pas eu assez de butin, il les envoie piller les pires. Et c'est pas un pillage normal. C'est-à-dire qu'il dit aux épirotes, vous allez rassembler l'or et l'argent de chacun de vos cités, et j'envoie des officiers pour le prendre. Et les soldats arrivent par petits groupes pour être tous au même moment devant chaque cité, et à heure fixée, ils attaquent et pillent tout, alors que les gens ne les attendent, s'attendent absolument pas à ce qu'il y ait un combat. Plutarque finit en disant qu'il a réduit un peuple en petite monnaie. Donc non, le personnage n'est pas du tout un philhellène ni quoi que ce soit. Il est un représentant parfait de ces systèmes. Mais bon, l'historiographie, et on nous dit il est très modeste, il ne prend rien du tout, sauf la bibliothèque royale pour ses fils. Personne ne se pose la question de ce que coûte une bibliothèque au milieu du deuxième siècle avant notre ère. C'est une fortune qu'il a récupérée.
Oui, donc il a eu sa part du butin,
ah oui,
sans aucun souci.
Très confortablement.
Puis, nous évoquons avec vous, Michel Tarpin, ces pillages romains vers des peuples extérieurs, ces butins venus d'ailleurs. Mais à l'intérieur même du monde romain, il y a la notion de pillage que nous croisons avec Cicéron.
Aucune affaire, pendant 3 ans, n'a été jugée que selon le caprice de Verrès. Nul n'a possédé une chose, lui vint-elle de son père ou de ses aïeux, dont il ne put être dépouillé par la sentence du préteur. Alors aussi, il a pillé et dépouillé les monuments les plus antiques, destinés à l'ornement des villes, par de riches souverains ou que nos généraux vainqueurs avaient donnés ou rendus aux cités siciliennes. Et ce n'est pas seulement sur les statues et les ornements publics, mais sur les temples consacrés aux cultes les plus saints qu'il a exercé ses brigandages. Enfin, il n'a laissé aux Siciliens aucun dieu, pour peu que la statue en parût faite avec quelque talent et par un ancien artiste.
Le Contre Verrès de Cicéron, 70 avant Jésus-Christ, lu par Nicolas Berger dans Le cours de l'histoire. Michel Tarpin, Cicéron, le procès contre Verrès, personnage qui a pillé la Sicile. C'est ainsi qu'on pourrait le présenter. C'est un pillage interne.
Alors, c'est pas vraiment un pillage interne, parce que ce ne sont pas très peu sont des Romains. Donc, Cicéron insiste quand la victime est un Romain, les autres sont des Grecs.
Ah, donc c'est une différence.
Mais cela dit, ça n'était pas légitime quand même. C'est dans une province et le préteur qui a en charge la Sicile a une charge très précise, une lettre de mission extrêmement précise sur ce qu'il peut prendre ou ne pas prendre. Mais il a aussi le droit de rendre la justice. Et évidemment, il rend la justice de manière souveraine. Verrès en fait un petit peu trop de ce côté. Mais dans la période, toute cette première moitié du 1er siècle avant notre ère, je crois qu'il n'y a pas un seul magistrat qui revienne sans être accusé d'avoir spolié les provinciaux. Généralement, ils sont acquittés. Et de toute manière, les procès pour concussion, ça Jean-Louis Ferrari l'a bien montré, la peine la plus lourde consiste à rembourser la somme. Il n'y a pas d'amende supplémentaire. Donc en fait, on risque pas grand-chose à spolier les provinciaux. Il se trouve que dans le cas de Verrès, alors d'une part, il y a des éléments factuels, un peu anecdotiques, qui sont que Cicéron, jeune, a besoin de démarrer sa carrière et qu'il voit l'occasion d'accuser un ancien proche de Sylla, dont tout le monde sait qu'il est véreux, mais depuis le début, la questure de Verrès est déjà un monument de malhonnêteté. Donc c'est pas très compliqué de l'accuser. D'ailleurs, il n'y a pas eu de procès. Hein. Il publie sa plaidoirie, mais Verrès, voyant le flot des témoins, voyant qui va plaider contre lui, se contente de s'exiler. Il part pas si loin, il va à Marseille. Hein.
Oui, c'est pas si loin.
C'est pas si loin. Il emmène ses collections, évidemment. Et puis surtout, le côté qui est particulièrement choquant dans ce cas-là, c'est le fait qu'il s'intéresse aux objets d'art, plus particulièrement, et sans aucun goût. Mais enfin, celui-là, il fonctionne comme un collectionneur actuel, c'est-à-dire qu'il achète en fonction de la cote. Enfin, il n'achète pas, justement. Enfin, il prétend avoir acheté, mais c'est des achats forcés. Mais il achète selon la cote, selon la célébrité du nom. Il n'a aucun sens esthétique, en fait.
Et il a pillé les anciens temples, mais il a pillé de l'œuvre d'art. Et c'est intéressant de voir à l'intérieur du monde romain comment Cicéron attaque, et on l'entend bien, ce contre Verrès. Bah oui, c'est une attaque contre la manière d'utiliser des biens pris illégalement, une forme de pillage ici qui concerne l'art. Michel Tarpin, je voudrais vous faire écouter une archive. Une archive, c'est André Aymar, hein, l'historien spécialiste de l'Antiquité grecque, qui évoque son analyse sur la manière dont l'armée romaine considère le pillage au fil du temps.
L'armée, telle que Marius l'avait organisée, l'armée a été un instrument de guerre civile. Elle devait fatalement le devenir. Elle est devenue en effet une armée de pauvres. Auparavant, elle était une armée de paysans moyens qui avaient dans leur domaine familial et qui trouvaient par conséquent dans leur travail personnel les moyens d'existence. Maintenant, la voici devenue une armée composée de pauvres qui ne peuvent trouver leurs moyens d'existence, au contraire, que dans la guerre, par le butin, par les récompenses qui leur sont distribuées à la fin de guerre victorieuse. Cette armée est donc consacrée à la victoire d'abord, mais elle est aussi consacrée au pillage des provinces, et enfin, elle est consacrée à devenir la chose du général, pourvu que celui-ci, par ses victoires, lui donne de quoi piller et, à la fin de la guerre, se trouve politiquement assez puissant pour obtenir des récompenses les plus sous la forme la plus matérielle de distribution de terres ou de distribution d'argent. Ainsi, cette armée, qui est une armée de métier, qui est une armée de professionnels, mais de professionnels ne trouvant leur vie que dans la guerre et dans les conséquences brutales de cette guerre, c'est-à-dire le pillage, est destiné également à devenir un instrument politique dans la main des ambitieux. Il y avait là, en germe, la destruction même de la République romaine, c'est-à-dire du régime sénatorial.
André Aymar, ici en 1958, dites-nous Michel Tarpin, alors le germe de la fin de la République se situe dans l'armée, dans sa manière de considérer le butin et les pillages ?
C'est une vision assez ancienne, je dirais, de droite et très bourgeoise, qu'il représente. En fait, bien avant déjà, les soldats tiennent à avoir du pillage. Et puis, de toute manière, dès que les guerres durent un petit peu longtemps, ce qui se produit dès le milieu du IIIe siècle avec la première guerre punique, ce soldat paysan propriétaire, il n'est pas propriétaire d'un très gros lot, et s'il reste plusieurs années, ou même ne serait-ce qu'une année complète, il ne peut pas faire sa culture. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque très archaïque, je dis, on part quelques jours, en fait. À l'époque de Camille encore, les épisodes de Camille, ça va très vite. On lève l'armée le matin, on est arrivé face au camp ennemi dans l'après-midi, on se tape dessus, si vraiment c'est pas décisif, on reprend le lendemain matin, mais en quelques jours, tout est fini.
Qui est Camille ?
Oui, celui qui a repris, enfin qui a vaincu les Gaulois justement après la prise de Rome. Voilà. Alors Camille est peut-être le premier triomphateur d'ailleurs. En tout cas, c'est le premier pour lequel Tite-Live dit que il reçoit l'ordre de rentrer dans le Sénat lui donne l'ordre de rentrer dans Rome avec ses troupes en ordre de marche. Donc là, on a vraiment quelque chose qui y ressemble. Cela dit, bon, il y a peut-être d'autres avant. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le paysan revient à sa charrue très directement. Il pose son épée dans une pièce et puis, voilà, ça repart. Mais très vite, en fait, les guerres durent trop longtemps et les soldats ne sont effectivement pas des professionnels, mais ne peuvent plus s'occuper de leur domaine. Et ça aboutira d'ailleurs à une des revendications des Gracques qui rappelle que pendant que le soldat n'est pas là, eh ben les grands propriétaires qui, eux, sont là, voisins, vont piquer les domaines qui sont à l'abandon. Donc, en fait, ça a commencé beaucoup plus tôt. Et la notion... C'est vrai qu'il y a toujours un débat, mais très très tôt, hein, dès le 5e, 4e siècle avant notre ère, si on suit Tite-Liv, sur est-ce que le pillage est destiné au trésor public, donc géré par le Sénat, ou est-ce qu'il faut majoritairement le donner aux hommes? Et très tôt, certains généraux comprennent que plus ils distribuent à leurs hommes, plus ils ont de chances d'être élus à la fonction supérieure, entre autres d'accéder à la censure. Indispensable si l'on veut construire un temple votif et mettre son nom sur ce temple pour rappeler des victoires, ça servira à la carrière des descendants. Donc, en fait, très tôt, toute la chaîne du butin, de son utilisation politique, est mise en place. Simplement, c'est systématisé à partir du moment où les tensions civiles se font et où il y a une armée qui devient progressivement une armée de métier.
Avec ici ces butins qui sont omniprésents, on l'entend bien, hein, la nature de l'armée entre la République et l'Empire, se tournant avec Octave Auguste, ne change pas l'idée de pillage. C'est-à-dire que sous l'Empire, il y a toujours du pillage, et quand un ennemi est vaincu, on pille ses biens. Mais dans le sens que vous nous expliquiez, Michel Tarpin, ce sens rituel aussi, pour montrer qu'on est réellement le vainqueur.
Oui, simplement, comme je le disais, au-delà du Rhin, il n'y a plus grand-chose à piller, d'une part. Là, l'armée est vraiment professionnalisée, mais de manière absolument institutionnel, en fait, parce que l'armée de Marius, de César ou de Pompée reste une armée de milice, officiellement. Même si elle a une solde, seuls certains peuvent s'engager, et puis, ils combattent officiellement pour Rome. Et, alors, César joue un peu là-dessus, avec, je vous ai passé un ou deux textes, c'est assez amusant, quand il distribue de l'argent à ses hommes, il le fait praeda et nomine, c'est-à-dire au titre de la praeda, alors que normalement l'argent ne fait pas partie de la praeda dans les catégories de butin, mais comme la guerre dure quand même 10 ans, la guerre en Gaule, il anticipe ce qu'il pourrait leur distribuer après un triomphe, surtout au moment où il sait que le triomphe, ça ne va pas être pour tout de suite, parce qu'il y a Pompée qui l'attend. Et donc, il utilise une astuce nominaliste pour que les soldats aient leur part de butin, histoire de les rattacher un peu plus à lui.
La praeda, c'est ce butin commun, en fait.
Voilà. Hein,
c'est
Paul Polémine avait fait le contraire. Il avait été un peu rapia sur la part donnée aux soldats. Résultat, quand il rentre à Rome, les soldats votent contre son triomphe.
Ah oui, parce qu'il s'est fait mal voir par ces soldats-là. Voilà. Et puis, pour terminer, on peut rappeler tout de même que dans tous les cas, tout le temps, quand l'armée arrive quelque part, elle va prendre des choses, elle va se nourrir chez le paysan du coin, toujours, elle va prendre les animaux. Et...
On n'a jamais compté les morts de faim à la suite des guerres de Rome.
Mais vous pensez que c'est immense, parce que les paysans n'ont plus rien après.
Quand il y a 8 ou 10 légions de César qui passent sur la Gaule et qui prennent de quoi se nourrir tout l'hiver, que vont manger les paysans?
Merci à vous, Michel Tarpin, d'être venu dans le cours de l'histoire nous parler pillage. Mais on a bien vu hein, que cette notion de pillage est beaucoup plus complexe que simplement l'idée de prendre les biens pour se les accaparer et puis montrer que c'est bien nous le vainqueur. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, l'art à la pointe de la baïonnette, pillage allemand pendant la Grande Guerre.
Les hautes parties contractantes sont convenues de ce qui suit.
Je suis un objet d'art.
J'ai été pillé.
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité, même prise d'assaut.
L'article 27 de la Convention de la Haye de 1907 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission qui est réalisée par Thomas Beau à la technique Grégory Wallon, émission consacrée au pillage. Et pour poursuivre cette notion de pillage, il y a l'émission Brigands des histoires hors la loi, Brigands de chemin, ça dépouille dans le monde romain. C'est une émission du cours de l'histoire à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.